Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
Environ un mois déjà depuis que l'appréciation du franc congolais face au dollar américain est observée à travers la RDC. Cependant, les prix des produits de première nécessité sur les marchés ne suivent pas cette tendance. Une situation qui pénalise les ménages à Kananga et à Beni notamment. Nous en parlons dans un instant. Dans l'actualité aussi, cette note de satisfaction pour les ex-combattants bénéficiaires du programme d'élevage et des travaux communautaires à Tséré dans l'Ituri. Ils l'ont exprimé hier à une délégation de l'Union européenne, l'un des principaux bailleurs de fonds en mission d'évaluation dans cette partie du pays. Et puis, opération démolition des maisons construites de manière anarchique à Kinshasa. Le député Steve Mikai adresse une question orale avec débat au ministre des Affaires foncières. Pour lui, c'est contradictoire que l'État congolais délivre des documents officiels pour des lotissements et des constructions, puis détruise ces mêmes constructions des années après. Madame, Messieurs, bonjour. C'est depuis environ un mois que l'appréciation du franc congolais face au dollar américain est observée à travers la RDC. Cependant, à Kananga, au Kasaï central, les prix des produits de première nécessité restent inchangés. Tenez, le taux est passé de 2800 francs à environ 2100 francs congolais pour un dollar, mais les prix sur le marché n'ont pas suivi cette tendance. Une situation qui pénalise les ménages à Kananga, entre autres, ville déjà confrontée à des difficultés économiques. André Katende nous en dit plus dans ce reportage.
Nous sommes sur l'avenue Étienne Tshisekedi, ex-Makar, l'artère commerciale la plus fréquentée de la ville. Les habitants rencontrés se lamentent de voir que, malgré l'appréciation du franc congolais sur les dollars, les prix des denrées alimentaires et autres produits restent statiques.
Un savon qui coûtait 1800 francs, encore à 1800 francs. Un cahier de 100 feuilles qui coûtait 1000 francs, c'est toujours à 1000 francs.
Notre souci est qu'on puisse voir les prix des produits qu'on peut payer sur les marchés diminuer ou que les prix qu'on payait avant.
Jean-Pierre Kamwabou est vice-président provincial de la FENAPEC. Il fait savoir que les opérateurs économiques ont connu de pertes dans le passé. Les taux des dollars pouvaient baisser et augmenter après quelques jours. Ils observent encore l'allure de cette dépréciation avant de penser à la réduction de prix.
Au niveau du secteur privé, nous sommes en train d'agir avec beaucoup de prudence. Si l'allure continue d'ici 3 semaines, 1 mois, vous allez voir qu'il y aura la baisse au niveau de tous les prix.
Dans plusieurs magasins de Kananga, les prix sont maintenant fixés en francs congolais, suivant l'ancien taux de 2850 francs congolais pour un dollar. Même situation pour les bailleurs qui exigeaient la location en devise et aussi plusieurs écoles privées qui demandaient les frais scolaires en dollars. Kananga, André Katendengala Moulumé, Radio Kapi.
Même situation à Beni. La population ne ressent toujours pas les effets de l'appréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. Les habitants du chef-lieu provisoire du Nord Kivu font savoir que les prix des produits manufacturés et de première nécessité restent inchangés alors que le dollar américain s'échange aujourd'hui à 2300 francs congolais contre 2800 il y a quelques semaines. Une perte de pouvoir d'achat qui provoque le désarroi dans les ménages déjà fragilisés par l'insécurité. Martial Papimukeba signe ce reportage.
En parcourant les commerces de la ville de Beni, on constate que plusieurs commerçants qui vendaient auparavant leurs marchandises en dollars américains affichent désormais les prix en francs congolais. Pourtant, les prix n'ont pas baissé. Une ménagère explique.
Tantôt c'est à 2500, 2300, 2200 ou même 2000 francs congolais le dollar, aucune stabilité. Le plus inquiétant, c'est qu'on affirme que le taux du dollar baisse, mais le prix des produits ne suit pas cette tendance. Imagine un kilo de viande qu'on achetait entre 15 000 et 18 000 alors que les dollars se négociaient entre 28 et 29 se va toujours au même prix aujourd'hui. C'est la même situation pour presque tous les produits. Les gens souffrent tellement et il n'y a aucune réglementation.
Face à cette situation, le maire de Beni a rappelé mercredi aux opérateurs économiques l'obligation de respecter les taux d'échange officiels fixés par la Banque centrale du Congo. Le commissaire supérieur principal Jacob Nyofondo Tekodale interdit tout taux parallèle et exige l'affichage clair des prix en francs congolais dans les points de vente. Cette mesure, selon lui, vise à protéger le pouvoir d'achat et à stabiliser l'économie locale. Beni, Martial Papimukeba, Radio Kapi.
Au Congo central, en revanche, la baisse des prix des produits alimentaires, particulièrement les surgelés, s'observe à Matadi. Cette situation due à l'appréciation du franc congolais face au dollar est un motif de joie pour les ménagères. Certaines croisées dans les boucheries des marchés urbains affirment que l'achat des vivres frais est devenu aisé par rapport au mois précédent. Constat de Nana Plurich Mambou.
À la Sokine et à la Socimex, deux grands sites de vente en gros des produits alimentaires de Matadi, les grilles tarifaires sont nouvelles. Les prix de plusieurs produits sont en baisse. Les chinchas, par exemple, son carton de 30 kilos jadis vendu à 208 000 francs, se vend à ce jour à 138 000. Un carton de cuisses de poulet à rôtir part de 64 000 à 43 000 francs. Les côtelettes de bœuf, de 100 000 francs à 85 000 francs congolais. Du coup, le prix du kilo de ces deux produits est passé de 10 000 francs pour les poissons et de 8 000 francs pour les cuisses jusqu'à 6 500 francs. Ceci à la grande satisfaction des ménagères telles que Solange Baka, croisée au marché Nzanza.
Avant, avec 10 000 francs, j'achetais seulement 1 kilo. Maintenant, je viens d'acheter 1 kilo et demi de poisson. Mon panier est rempli. Les enfants vont bien manger. La nourriture va même y rester, même jusqu'à demain. Nous sommes très contents. Nous souhaitons que ça puisse continuer comme ça.
Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Nous sommes satisfaits d'avoir retrouvé notre place dans la société grâce au projet de réinsertion communautaire. Cela, 5 mois après avoir déposé les armes, c'est ce qu'ont dit hier des ex-combattants bénéficiaires du programme d'élevage et des travaux communautaires à Téré. Nous sommes à environ 5 kilomètres au sud-ouest de Bounia et c'était en présence d'une délégation de l'Union européenne. L'un des principaux bailleurs de fonds en mission d'évaluation des activités de réinsertion sociale et de cohabitation pacifique des anciens miliciens. Reporter de Martial Kiza Biamongo.
Ces anciens miliciens du groupe armé d'autodéfense, encore appelé Zaïre, ont bénéficié en mai dernier de la MONUSCO d'un projet d'élevage de 25 vaches. Ils ont également participé aux côtés des 48 membres de la communauté locale aux travaux de réhabilitation des centaines de kilomètres de routes des dessertes agricoles reliant les villages de Kokolombi, Ngona et Rompara. 5 mois après, ces démobilisés affirment ne pas regretter d'avoir intégré la vie civile et communautaire en déposant les armes pour devenir des artisans de la paix.
Je demande à mes frères qui sont encore à Brousse de déposer les armes. Les histoires de tenir les armes laissent au gouvernement qui a droit de nous protéger.
Angélique Cabromen, de l'ambassade de Suède en RDC et membre de la délégation de l'Union européenne en mission à Ituri, estime qu'il y a encore de l'espoir de retrouver la paix dans cette province.
Les gens en ont marre de la guerre, ils sont fatigués. Ils veulent maintenant construire la paix.
La délégation de l'Union européenne a également visité les travaux de construction du bureau de la coopérative des ex-combattants, où ces derniers pourront entreprendre avec la communauté locale des activités génératrices des revenus. Des retours d'Etserie, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Du côté du Nord Kivu, au moins 100 femmes et jeunes filles des villages de Kingarame et Kibumba dans le territoire de Niragongo ont reçu cette semaine des kits variés de démarrage d'activités génératrices de revenus. Cette distribution s'inscrit dans le cadre d'un projet d'appui à l'autonomisation des femmes et des filles dans cette zone. Ces femmes tentent de reprendre leur vie après plus de 2 ans passés dans les camps de déplacés autour de Goma. Ce projet mis en œuvre par l'organisation Action Unie pour le développement intégral en RDC est appuyé par le PNUD. Satisfaction pour les habitants de Niragongo car ce projet fait renaître l'espoir. Rosalie Zawadi.
Madame Bourie Hortense a commencé son commerce directement après la réception de son kit de démarrage. Elle envisage déjà un meilleur avenir pour ses enfants.
Vraiment merci.
Merci beaucoup. J'ai obtenu tout ce que j'avais demandé. J'ai reçu les œufs, la farine, les riz, même les bassines dans lesquelles je vais présenter mes marchandises. Donc je vais faire ces commerces pour arriver à me prendre en charge et voir comment mes enfants vont grandir.
Chaque femme bénéficiaire a été appuyée dans les secteurs d'activité qu'elle a choisi, explique Madame Kavira Linda, chef de ces projets.
Il y a ceux qui ont choisi l'agriculture de pommes de terre, ceux qui ont choisi le chou, ceux qui ont choisi des petits commerces. Par exemple, pour l'agriculture, on a donné les semences et tous les outils aratoires. Pour les petits commerces, on a donné tout ce qui va avec, l'étalage, on a donné les parasols pour se protéger de la pluie. Il y a ceux qui ont choisi la préparation de beignets.
Très contentes, ces femmes promettent de bien travailler afin de réaliser des profits pour prendre en charge leur famille. Elles demandent une paix durable dans leur village, sans laquelle tous leurs efforts seraient anéantis. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadiamvita, effectue depuis mercredi une visite d'inspection au centre d'instruction militaire de Kamina pour s'enquérir de l'évolution de la formation des militaires. Sur place, il veut se rassurer du respect des procédures édictées dans les dispositions ministérielles permanentes qu'il a publiées il y a quelques mois. Des détails avec Blaise Ndongalamanda.
Au cours d'une causerie morale avec des milliers de recrues en formation spécialisée à la base des Kamina, le vice-premier ministre de la Défense nationale a invité ses interlocuteurs à faire preuve d'abnégation pendant leur apprentissage pour être utile à la nation en cette période où le pays fait face à l'agression rwandaise. Sur place, le vice-premier ministre de la Défense a visité les centres de santé de base des Kamina, dont les travaux sont à 90% de réalisation. Ces membres du gouvernement souminois a en outre échangé avec les épouses et veuves militaires à qui il a remis une enveloppe pour des besoins primaires. En ces derniers trimestres de l'année 2025, Guy Kabombo Mwadiamvita s'est engagé dans une itinérance d'inspection, de centres d'instruction et d'entraînement des militaires à travers le pays. Après Kamina, le vice-premier ministre de la Défense est arrivé ce jeudi à Kindu, dans les Maniema, où il a remis une ambulance à l'hôpital militaire des garnisons de Kindu avant de poser la première pierre des constructions d'un hôpital moderne en présence du gouverneur du Maniema et du président de l'Assemblée provinciale.
Plaider en faveur de la création d'un Conseil national du genre et de la parité, tel est l'objectif d'une table ronde tenue à Kinshasa hier, organisée par Wema Asbel en partenariat avec l'ONG allemande Friedrich Ebert. Cet événement a réuni des organisations féminines nationales, des parlementaires, des représentants d'ONG, des experts en genre et des membres de la société civile. Tous se sont engagés à promouvoir un dispositif institutionnel garantissant l'égalité entre les sexes en RDC. Témoin de l'événement, Blaise Shindani Kambala.
La cérémonie d'ouverture a été marquée par les discours des animatrices de plusieurs organisations de défense des droits des femmes, à l'instar de Nathalie Yokambombo. Chargée des programmes au mouvement Rien sans les femmes, souligne que tout a déjà été fait, mais la signature du décret traîne. C'est pourquoi, pense-t-elle, il faut maintenant avoir des alliés à tous les niveaux pour leur permettre d'obtenir gain de cause.
Jusque-là, la signature du décret tarde. Ce qui devrait être fait maintenant, c'est qu'il faut qu'il y ait des plaidoyers de haut niveau. Il faut qu'on ait des alliés au niveau du Parlement, au niveau de la CENI, au niveau de toutes les institutions, non seulement politiques, mais aussi publiques de l'État.
Pour sa part, Dominique Munongo, l'ancienne rapporteuse de l'Assemblée nationale, a demandé aux jeunes filles de s'approprier de ces combats, car ça leur concernait toutes.
Notre souci, c'est que davantage on puisse avoir des jeunes qui s'intéressent à ce combat de la femme, qui n'est pas un combat contre les hommes, mais un combat pour que la femme réellement existe, qu'elle participe parce qu'on est complémentaires, hommes et femmes. Et dans une société où il y a plus de femmes que d'hommes, démographiquement, ce n'est pas normal que les femmes soient toujours à la traîne et qu'elles ne s'expriment pas, qu'elles ne s'engagent pas.
Les recommandations qui sortiront de cette table ronde seront présentées à la Première ministre afin d'obtenir la signature du décret instituant le Conseil national du genre et de la parité.
Autre nouvelle, la MONUSCO célèbre une des membres de son personnel qui vient de remporter le prix des pionnières des Nations Unies, un prix qui récompense les femmes qui travaillent dans le cadre de la justice et de l'administration pénitentiaire. Cette année, c'est une Nigériane, Olukemi Ibikunle, agent pénitentiaire au sein de la MONUSCO, qui est lauréate. La remise du prix a eu lieu le mercredi 15 octobre à Kinshasa. La chef de la mission onusienne, le coordonnateur résident ainsi que des collègues de plusieurs pays ont été présents pour l'honorer. Reportage de Naomi Mutokie et Wami Ngitukulu.
C'est dans une ambiance détendue que s'est déroulée cette cérémonie. Tous ont voulu montrer à leurs collègues leur joie et leur fierté de l'avoir parmi eux. La lauréate Olukemi Ibikule dit être honorée de recevoir ce prix.
Je me sens honorée et également je me sens motivée pour continuer les initiatives et aussi pour se battre pour l'amélioration des conditions de détention en RDC.
Pour sa part, Patience Saye, la chef de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, estime que ce prix est aussi une fierté pour la RDC.
On est ému parce qu'il y avait beaucoup de gens dans la compétition. Tous les pays qui ont cette mission de maintien de la paix ont participé et c'est la MONUSCO qui a gagné. C'est la deuxième fois même que la MONUSCO a gagné. Donc je pense que ça c'est un acquis pour le pays. Et je suis contente que les autorités pénitentiaires ont participé. Ça me donne quand même l'impression que vraiment on est en bon chemin.
Pour certains participants, ce prix remporté par Olukemi Ibikule élève bien plus qu'un parcours individuel. Elle célèbre une vision, celle d'un avenir où chaque femme qui se distingue dans son domaine trouve la reconnaissance qu'elle mérite.
Actualité internationale.
Nous sommes au Lesotho. La lutte contre le VIH est en nette régression. Depuis la réduction de l'aide américaine, des milliers de patients séropositifs sont plongés dans l'incertitude. Pendant près de deux décennies, le plan PEPFAR des États-Unis avait permis au pays de stabiliser la maladie avec près d'un milliard de dollars investis, mais avec la suspension des fonds sous l'administration Trump, cliniques fermées, traitements interrompus, personnel licencié et une crise sanitaire qui reprend des plus belles. Même l'ONU SIDA a dû réduire sa présence. Le bureau du Lesotho est désormais supervisé depuis l'Afrique du Sud. Sa directrice, dont le poste a été supprimé, tire la sonnette d'alarme.
L'invité.
À Kinshasa, l'opération des démolitions des maisons construites de manière anarchique continue de susciter des réactions. Le député Steve Mbikai interpelle le gouvernement congolais à ce sujet à travers une question orale avec débat adressé au ministre des Affaires foncières et déposé la semaine passée à la chambre basse du Parlement. Il s'entretient avec Blaise Shindani Kambala.
Monsieur le député national Steve Mbikai, bonjour.
Bonjour.
Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à déposer cette question orale concernant les démolitions de constructions anarchiques à Kinshasa?
C'est de la justice sociale. Je l'ai fait au nom de la justice sociale parce que je me rends compte qu'il n'y a pas de justice et de cohérence dans cette démarche. Qui d'ailleurs, je soutiens. La démolition, elle est bonne parce qu'il faut quand même urbaniser notre capitale. Mais ce qui est anormal et que l'État qui délivre les documents officiels aux citoyens, le même État vient détruire et au mépris de la procédure et sans penser à indemniser les victimes de ces démolitions. Pour cette raison, je voudrais bien que la ministre des Affaires foncières vienne s'expliquer et que l'État prévoie un fonds d'indemnisation pour les victimes des bonnes fois, mais aussi un fonds social pour tous les sinistrés.
Il semble que ces gens-là se présentent parfois avec des faux documents.
Non, ces gens-là, la plupart sont sous des lotissements couverts par des arrêtés ministériels. Et après, ils ont des certificats d'enregistrement et enfin, les autorisations de bâtir. Ma démarche consiste aussi à obtenir des sanctions administratives et judiciaires contre tous les fonctionnaires et tous les ministres qui ont délivré ces documents et qui ont facilité que les gens construisent à des endroits qu'eux-mêmes connaissaient non appropriés. Et cela pourrait faire en sorte que dans l'avenir, les fonctionnaires aient peur de pouvoir encore commettre les mêmes forfaits et nous allons éviter d'avoir encore d'autres constructions anarchiques. On va venir encore de plus anarchiquement par l'État comme il est fait aujourd'hui.
À Kingabwa, ceux qui ont construit les lots du rail.
Oui.
Donc à ces gens-là, vous dites qu'il faut aussi indemniser.
Oui, je plaide pour des circonstances atténuantes parce que l'État a l'obligation d'avoir une politique cohérente de l'habitat. L'État est alors l'obligation de construire des logements sociaux pour la population. Parce qu'on ne les fait pas, la population se débrouille elle-même. Il faut la comprendre. Il y a tellement beaucoup de gens à Kinshasa qu'il n'y a pas assez de logements. Et voilà comment ils se retrouvent là. Je n'encourage pas ça. Mais j'ai dit que, bien sûr, qu'on doit les évacuer. Mais il faut prévoir une assistance sociale. Parce que ces gens-là les font parce que l'État a failli à sa mission.
Et jusqu'où irez-vous avec votre motion? Parce que nous savons que vous allez convoquer la ministre au finish. Elle va
rester à son poste.
Non, moi j'aurais fait mon travail. Les gens verront d'abord que moi, la préoccupation c'est de défendre mes électeurs. Vous savez, je suis élu à Kinshasa, ça fait plusieurs années. Je ne pouvais pas rester insensible face à ces malheurs. Et tout va dépendre aussi de mes collègues députés. Si on trouve que le gouvernement ne fait rien à ces sujets, eh ben, on va s'assumer. Si la ministre qui viendra à l'Assemblée n'est pas à la hauteur pour défendre ces situations, eh ben, nous allons prendre nos responsabilités. Parce que le gouvernement est notre émanation. Donc, on ne va pas laisser la population en détresse sans pour autant prendre les positions nécessaires contre le gouvernement.
Avez-vous un message pour les uns et les autres?
J'ai deux messages. Le premier, je l'adresse au chef de l'État, qui est le garant de la nation, que je connais humaniste, pour qu'il puisse instruire le gouvernement, afin qu'un fonds d'indemnisation soit débloqué en faveur des victimes de tous ces sinistrés. Et l'autre message en direction de la population pour conseiller d'arrêter de construire les endroits inappropriés pour plus tard se voir être démolis. Et aussi, l'autre message, c'est à la ville, c'est d'encourager que cette opération se poursuive, mais dans le respect des normes, qu'ils aillent plus loin pour mettre fin au désordre le long de toutes les artères où il y a des petits marchés pirates qui salissent la ville et que notre ville soit quand même embellie, hein, comme on le voit ailleurs avec d'autres capitales.
Vous êtes aussi pour ceux qui chassent des pauvres mamans qui nourrissent des familles, mais qui vendent à proximité des...
Moi, quand j'hésite sur des solutions, en fait, il faut l'État a la possibilité de trouver dans chaque commune un endroit pour créer un marché où tous ces gens vont se débrouiller. Il ne faut pas qu'au nom de la misère, quand on a de la visite des étrangers, qu'on ait la honte. Et c'est une honte, commençant par la porte d'entrée de Kinshasa, Ndjidi, Kiangou, jusqu'en ville, ça fait la honte de la République. Il y a moyen de pouvoir concilier les deux. Trouver un endroit approprié pour ses mamans pour vendre, mais aussi embellir nos artères, embellir notre ville. C'est quand même très important.
Steve Mbikai, je vous dis merci beaucoup.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.